France Culture, il est 18h. Et une édition spéciale ce soir jusqu'à 19h après l'attaque terroriste de ce matin à Paris dans les locaux de Charlie Hebdo. Bonsoir Anne Lurchoin.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Un journal effectivement entièrement consacré à cet attentat qui a tué 12 personnes et en a blessé 8 ce matin dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. Les caricaturistes Charb, T-News, Volinsky, Cabu et le chroniqueur Bernard Maris sont morts. Un attentat terroriste par des auteurs lourdement armés qui sont toujours en fuite à l'heure actuelle. Nous ferons le point sur l'enquête et les mesures de sécurité prises immédiatement après cet événement avec notre invité Philippe Denossé, un ancien du renseignement. L'émotion est extrême, les réactions sont venues du monde entier mais aussi de simples citoyens et d'abonnés de l'hebdomadaire satirique qui disent leur choc et leur écœurement. Ils sont déjà rassemblés pour certains d'entre eux place de la République à Paris et partout en France. Charlie Hebdo, un symbole, s'en prendre à ce journal sous protection depuis l'affaire des caricatures de Mahomet est évidemment lourde sens. Dans ce journal, nous ferons également un tour d'horizon des réactions politiques, avec en premier lieu celle du chef de l'État. Et puis cet attentat que la France n'avait pas connu depuis des années a fait réagir les capitales étrangères, mais aussi les dignitaires religieux et les réseaux sociaux, dont Twitter, avec ce mot dièse apparu en fin de matinée. Je suis Charlie.
Et puis dans le cadre de cette édition spéciale, donc je le rappelle, jusqu'à 19h, nous recevrons les réactions des dessinateurs Philippe Gueluc et Ali Edilem, ainsi que de la documentariste Stéphanie Valoato. Elle a signé il y a quelques mois de cela un documentaire consacré aux caricaturistes, ces fantassins de la démocratie. Autre invitée également, Christine Lazerge, qui préside la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Nous lui demanderons notamment quelle peut être la réponse républicaine après ces attentats.
Il était 11h20 ce matin quand deux hommes armés vêtus de noir ont déboulé près du siège de Charlie Hebdo dans la rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement de Paris. Deux hommes qui ont fait feu à plusieurs reprises tuant 12 personnes au total dont un policier et 5 des plus grandes signatures de Charlie Hebdo. Ludovic Pochan, vous êtes en ce moment rue Nicolas Appert et vous revenez pour nous sur le déroulé de ces événements.
Oui, absolument. Vous nous parliez de deux hommes cagoulés, des hommes armés d'une Kalachnikov, d'un fusil à pompe, qui pénètrent ce matin à 11h30, effectivement, dans les locaux de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement de Paris. Et là, c'est le carnage. Les coups de feu pleuvent. On parle d'une cinquantaine de coups de feu tirés. Lorsque la BAC, la brigade anti-criminalité, débarque pour intervenir, l'un des policiers est mortellement touché. Les assaillants s'enfuient ensuite dans une C3 noire. On retrouvera même des douilles sur le sol du boulevard Richard Lenoir, à quelques centaines quelques centaines de mètres du lieu de ce que tous appelleront aujourd'hui l'attentat. En tout, 12 morts, dont les dessinateurs phares du journal, comme Charb ou Cabu. Lorsque les secours arrivent, les survivants sont prostrés, les témoins de la scène sont choqués, abasourdis, sonnés. Certains s'évanouissent après avoir déambulé notamment sur le trottoir et sur les lieux, beaucoup de sang, des mares de sang. Le quartier est rapidement bouclé par les forces de l'ordre, puis ensuite l'incessant balai des ambulances, des camions de police par dizaines, puis le balai des officiels. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, François Hollande, le président de la République, Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon, Manuel Valls, Gérard Larcher, et puis des lecteurs. Tout à l'heure, des lectrices étaient venues pour apporter ici leur journal du jour. Là, un bouquet de fleurs, ému, scandalisé, dans une salle située à une dizaine de mètres du lieu du drame. Une cellule psychologique a été installée, témoin de la scène. Salariés du journal, proches, voisins, en tout une cinquantaine de personnes prises en charge par les secours. Et puis, comme un événement dans l'événement, la presse, venue très nombreuse pour couvrir l'événement, dans une ambiance professionnelle mais lourde, presque silencieuse, perdue, comme si ici personne n'y croyait vraiment, comme si tout ça n'avait pas vraiment été réel.
Ludovic Pochan, merci beaucoup. Alors, vous l'avez dit, l'émotion s'est immédiatement manifestée sous plusieurs aspects, notamment sur les réseaux sociaux. On y reviendra. Le Parti Socialiste et d'autres partis et associations appellent à un rassemblement tout à l'heure à 19h, place de la République, en hommage aux victimes et pour défendre la liberté de la presse. Il faut dire que l'attaque a stupéfié les médias, mais aussi la société civile, choquée d'une telle violence contre la liberté d'expression. Cyril Péter a recueilli tout à l'heure la réaction d'un abonné de Charlie Hebdo depuis 40 ans qui se fait appeler Poulou.
La seule réponse, c'est de rediffuser les deux numéros de Charlie Hebdo sur Mohamed et il est difficile d'être ému par un con. Ces deux numéros, ils doivent être absolument imprimés en grande quantité pour être diffusés partout, partout. Nous sommes dans une guerre. Et la guerre est surtout communication et de philosophie. On ne fera rien avec des armes, mais il faut se battre avec ce qu'on a vraiment dans nos tripes. Voilà.
Et donc pourquoi diffuser ces pour ne pas se taire ?
Parce que c'est ça la raison de cet attentat. Et donc il faut dire aux islamistes que nous n'avons pas peur d'eux et on défend ce que nous avons déjà dit il y a 3 ans et on va le redire en toute liberté. Nous sommes dans un pays de liberté et personne ne peut nous interdire de faire ça.
Alors on le disait, 5 personnages de Charlie Hebdo sont morts dans cette fusillade. Charb, Cabu, Volinsky, Tinius et le chroniqueur et éditorialiste Bernard Maris, 5 grands du journal, 5 figures de la liberté de la presse en France aussi, Ludovic Piétenu.
Oui, Georges Volinsky avait 80 ans, Cabu allait fêter dans 6 jours ses 77 ans, Bernard Maris, oncle Bernard dans Charlie Hebdo, chroniqueur à France Inter, 68 ans, Bernard Verlac alias Tinius avait lui 57 ans et Stéphane Charbonnier, Charb, 47 ans, du plus anciens aux plus jeunes, ils avaient tous cette plume déchaînée. Volinsky avait récemment fêté ses 50 ans de dessin par une grande exposition à la Bibliothèque Nationale de France. C'est en 1960 qu'il va rencontrer Cabu à Harakiri. Ses papis de la caricature n'ont ensuite jamais arrêté de disséquer la société française. Tous les deux avaient été interviewés par Paris Match il y a 2 ans et demi. Ils disaient ceci, c'est Cabu qui parle. En France, il y a toujours eu 2 tabous, la religion et l'armée. Pour l'armée, ça s'est un peu tassé depuis que la conscription a été supprimée. En revanche, ça ne s'est pas calmé avec les religions. Autrefois, il n'y avait que les catholiques qui nous emmerdaient. Désormais, ce sont les 3 religions monothéistes. Cabu et sa coupe au bol légendaire, Volinsky et ce trait fin qui avait dessiné aussi pour la publicité. Tous les Français les connaissent. Ils font partie de la mémoire collective. On voyait Cabu dessiner à la télévision chez Dorothée pour toute une génération de 77 à 87 dans Récréa 2 avec ses coups de crayon. Ils nous ont fait rire, ils nous ont interpellés, parfois choqués. Ils ont donné envie aux plus jeunes de prendre cette plume, de se lancer dans le dessin de presse. C'est le cas de Tinius et de Charb qui sont morts aujourd'hui. Tinius avait commencé en 1980 à 23 ans. Charb, le plus jeune, 47 ans, avait découvert l'univers du dessin de presse grâce à Cabu. En 92, il a accompagné Philippe Val et Cabu, viré de la grosse Bertha pour reformer Charlie Hebdo, dont il prendra en 2009 la tête de la publication. Je terminerai avec ces mots de Charb en 2012, je n'ai pas peur des représailles, je n'ai pas de gosse, pas de femme, pas de voiture, pas de crédit, je préfère mourir debout que vivre à genoux.
Ludovic Piétenu, merci beaucoup. Grand ami de ces 5 figures de Charlie et qui fut longtemps patron lui-même du journal, Philippe Val a réagi tout à l'heure sur les ondes de France Inter. Il était extrêmement ému.
J'ai perdu tous mes amis aujourd'hui. C'était des gens tellement vivants, qui avait tellement à cœur de faire plaisir aux gens, les faire rire, qui avait à cœur de leur donner des idées généreuses. C'était des gens très bons. C'était les meilleurs d'entre nous, forcément, comme tous les gens qui font rire, comme tous les gens qui sont pour la liberté. Assassiner, c'est une boucherie épouvantable. Il ne faut pas laisser le silence s'installer. Il faut qu'on soit groupés contre cette horreur. La terreur ne doit pas empêcher la joie de vivre, la liberté d'expression. Jamais on n'acceptera ça. Jamais on laissera le rire s'éteindre. Jamais on laissera la liberté s'éteindre.
L'ancien patron de Charlie Hebdo, Philippe Val. Ce type d'attentat se voit dans des pays comme le Pakistan ou la Somalie, mais jusqu'à ce jour, jamais sur le territoire européen. Des mots du directeur général de RSF, Reporters sans frontières, Christophe Deloire, tout à l'heure, des mots à la mesure de l'émotion suscitée par cette atteinte directe à la liberté de critiquer la religion. Et en la matière, Charlie Hebdo était devenu une référence. C'était le journal des caricatures de Mahomet, notamment. Bonsoir Aurélie Kiefer.
Bonsoir.
La rédaction de Charlie Hebdo avait fait de la caricature du fanatisme, sa marque de fabrique.
Alors Charlie Hebdo n'épargne personne en fait, héritier d'Harakiri, le journal bête et méchant lancé par Cavana et le professeur Choron en 1960. Il cultive l'impertinence et la provocation. Réputé de gauche, il est surtout de tradition libertaire. Il ne craint pas les procès et son humour corrosif cible aussi bien le pouvoir que les personnalités médiatiques et vous l'avez dit, les religions. Catholicisme, islamisme et judaïsme en prennent pour leur grade. Et lorsque les caricatures de Mahomet publiées par un quotidien danois entraîne des protestations dans le monde musulman en 2006. Charlie Hebdo, en signe de solidarité, décide de publier ses dessins à son tour. Le journal est poursuivi pour injure aux musulmans. Il reçoit des menaces, mais la justice française lui donne raison. En 2011, Charlie se rebaptise le temps d'un numéro Charia Hebdo. En une, un dessin de Mahomet déclarant « c'est dur d'être aimé par des cons ». Les locaux du journal sont détruits par un incendie criminel. Charb, menacé de mort, est placé sous protection judiciaire. Et le site internet de Charlie Hebdo est piraté à plusieurs reprises. Même pas peur. peur. Le journal publie de nouvelles caricatures en 2012. Il est attaqué pour provocation à la haine et pour injure publique par des associations musulmanes. Le Conseil français du culte musulman dénonce un nouvel acte islamophobe. Mais des critiques s'expriment aussi parmi les responsables politiques. On se souvient de Jean-Marc Ayrault appelant les médias à la responsabilité. Comme d'autres, il redoutait un embrasement. Mais pour Charlie, pas question de faire des compromis. La liberté d'expression n'est pas négociable, quels qu'en soient les risques.
Aurélie Kiefer, merci. Revenons aux faits. À présent, bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
La police recherche toujours les auteurs de cet attentat. Deux ou trois hommes armés en fuite.
Oui, on peut parler ce soir de trois hommes armés. Information confirmée par le ministère de l'Intérieur. Même si l'on ne voit que deux tireurs sur les images vidéo tournées sur place par des témoins. En sortant de l'immeuble, ils crient « Nous avons vengé le prophète, nous avons tué Charlie Hebdo ». Un premier face-à-face avec des policiers de la brigade en anticriminalité, nouveaux échanges de coups de feu, les individus réussissent à prendre la fuite à bord d'une Citroën noire avant de se retrouver face cette fois à une voiture de police siglée. Ils tirent une dizaine de coups encore dans le pare-brise. Et puis il y a aussi cette autre vidéo qui a circulé sur internet avant d'être retirée car particulièrement choquante. On y voit l'un des agresseurs s'approcher d'un policier en uniforme blessé et à terre, et l'abattre d'une balle en pleine tête avant de remonter dans la voiture. Un véhicule qu'ils vont abandonner rue de Meaux, dans le 19e arrondissement, le pare-brise arrière cassé pour braquer un automobiliste. À ce moment-là, la police est sur leurs traces, mais la poursuite extrêmement difficile et très risquée en plein Paris, compte tenu de la dangerosité des agresseurs. Ces derniers vont encore une fois changer de véhicule du côté de la porte de Pantin, et d'énormes moyens sont bien sûr déployés pour tenter de les retrouver, mais pour le moment sans succès.
Alors ce soir, que peut-on dire des auteurs de cet attentat?
Alors rien encore sur leur identité, même si les enquêteurs sont en train de passer au peigne fin la voiture abandonnée, voiture qui est sans doute un véhicule volé ou muni de fausses plaques d'immatriculation, car il y a bien une certitude, les auteurs de l'attentat ne sont pas des amateurs. Ils portent des cagoules, des chaussures de sport, des gilets porte-chargeurs, peut-être même des gilets pare-balles. Ils disposent d'armes automatiques de type Kalachnikov qu'ils maîtrisent parfaitement. Il est probable qu'ils ont eu un entraînement militaire, estime un policier, qui risque même un parallèle avec la méthode Mera, entrée dans le bâtiment, tir de sang-froid, sortie sans précipitation. Mais cette fois-ci, nous ne sommes pas face à un loup solitaire, mais bien à un groupe d'individus déterminés avec une opération préméditée, planifiée. Le mercredi est jour de conférence hebdomadaire à Charlie Hebdo. En revanche, les agresseurs n'avaient visiblement pas la bonne adresse. Ils ont d'abord pénétré au numéro 6 de la rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement, avant de se diriger, mais sans affolement, à l'entrée du 10, au siège de Charlie Hebdo, là où ils ont débuté leur carnage.
Florence Sturm, alors les organes de presse, les grands magasins, les lieux de culte et de transport ont été placés sous protection renforcée. Le plan Vigipirate est à son niveau maximum, alerte attentat en Ile-de-France. 500 policiers ont été déployés en renfort à Paris. En ligne avec nous, Éric Denesset. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous avez travaillé à la DGSE, vous êtes spécialiste d'Al-Qaïda également. D'abord une première question, cet attentat dirigé contre un organe qui était connu pour pourfendre l'islamisme radical, cet attentat vous surprend-il? Est-ce qu'à votre avis ça devait arriver?
Non, ça n'a rien de surprenant, pas plus contre Charlie Hebdo que contre n'importe quel objectif qui est visé par les islamistes radicaux. C'est malheureusement la concrétisation de ce que l'on craignait depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. La situation a pris vraiment un tour beaucoup plus préoccupant dès lors que un certain nombre de Français sont partis s'entraîner en Syrie. Et à ce moment-là, il y a eu des retours et c'est la concrétisation de ces retours de terroristes sur notre territoire que nous avons aujourd'hui.
Alors, on n'est pas en présence là, Florence Sturm le disait tout à l'heure, d'un loup solitaire. C'est un attentat des hommes qui sont préparés, y compris dans leur fuite. Il y a un changement du mode opératoire?
Non. Les changements, si vous voulez, ils sont frappants pour le public et la presse qui ne suit pas nécessairement toujours ces questions. Mais quand on travaille sur ces dossiers, on voit l'évolution de cette nature dans un certain nombre d'autres pays. Il y a une professionnalisation régulière, progressive que l'on observe depuis quelques années. On l'a vu avec Mera, on le voit avec Nemouche, on le voit encore mieux là. C'est bien sûr extrêmement préoccupant. Je crois qu'il faut aussi garder raison pour deux choses. Nous avons vécu et nous continuons à vivre sans grand attentats en quantité. Celui-là est un drame, c'est barbare, mais il faut aussi faire le parallèle avec les pays étrangers qui connaissent souvent beaucoup plus d'attaques que nous. Et puis, malheureusement, ne pas s'étonner de la barbarie des individus, parce qu'on a probablement affaire à des gens qui sortent d'une zone de conflit, et le sang-froid dont ils ont fait preuve est tout à fait caractéristique d'hommes habitués au combat.
Est-ce que ces hommes-là étaient connus ou pas des renseignements français ? Est-ce qu'on peut supposer qu'ils étaient inconnus ?
Écoutez, on l'ignore à l'heure actuelle, en tout cas moi je l'ignore, ça ne change pas grand chose parce que quand on a plusieurs centaines de d'hommes qui rentrent de Syrie, on ne peut pas les suivre tous en permanence. Le système juridique français fait qu'on nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de les mettre en prison immédiatement dès qu'ils rentrent, tant qu'ils n'ont pas de commis de forfait sur le territoire français. Ça veut dire que si effectivement ils étaient fichés et qu'ils avaient déjà eu des entretiens avec nos services de renseignement, il va falloir voir de quelle manière on durcit la loi, mais en même temps, il faut prendre garde de ne pas sombrer dans un système tout répressif, parce que là, c'est les fondements de notre démocratie qui pourront être victimes. Et c'est ce que cherchent les terroristes. Ils cherchent deux choses. Ils cherchent à radicaliser la population occidentale contre les musulmans, en espérant que ça va entraîner un choc entre nos deux communautés. Et puis, ils cherchent aussi à mettre en cause notre démocratie en nous obligeant à mettre des systèmes de plus en plus répressifs.
Hervé Gardet, vous souhaitiez poser une question.
Oui, à propos de la législation, justement, Eric Donnet, il y a une nouvelle législation antiterroriste qui a été promulguée à l'automne dernier. Est-ce que, d'après vous, ce qui vient de se passer justifie le fait qu'on ait renforcé la législation antiterroriste, ou bien est-ce qu'au contraire, ça montre que la loi, de toute manière, ne peut pas empêcher ce genre d'actes et que renforcer de multiples reprises cette législation n'empêche pas, de toute manière, qu'il arrive des attaques comme celle de ce matin ?
Oui, je vais vous répondre. Vous avez raison sur les deux points. C'est-à-dire qu'à la fois, il fallait améliorer et compléter plus exactement un peu plus la loi antiterroriste. Et il y a encore un décret qui est sorti le jour de Noël pour la surveillance électronique. Mais en même temps, tout ça ne permet pas de résoudre tous les problèmes. Je crois qu'il faut, il y a toujours plusieurs modes d'action possibles. Il faut le rappeler d'abord, la vigilance de la population, parce que c'est une action de chacun d'entre nous. Ensuite, l'augmentation des moyens, notamment en hommes des services de renseignement et de police qui doivent lutter. Mais c'est bien sûr le cadre juridique dans lequel on travaille. Mais même si tout ça est fait, vous savez, ça n'empêche pas le fait que 1, 2, 3 ou 10 individus de cette nature se livrent à des actes de cette nature. C'est un peu comme des tueurs en série. On n'empêche pas un tueur en série. L'enjeu, c'est de les arrêter très vite pour qu'ils ne recommencent pas. Et c'est ce qui se passe ce soir.
Merci beaucoup, Eric Denessé, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes ex-membre du renseignement français, spécialiste d'Al-Qaïda. Alors, une réunion ministérielle de crise a eu lieu en début d'après-midi à l'Élysée, autour de François Hollande et Manuel Valls. Plusieurs ministres, les responsables des principaux services de police et de gendarmerie participaient à cette réunion. Plus tôt, François Hollande a dénoncé un acte d'une exceptionnelle barbarie. Il a appelé à l'unité nationale. Écoutez-le, c'était à midi, juste après l'attentat.
La France est aujourd'hui devant un choc, qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste. Ça ne fait pas de doute. Et par rapport à un journal qui avait été plusieurs fois menacé et qui était justement protégé. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Je l'avais dit, nous sommes dans un moment extrêmement difficile. Plusieurs attentats terroristes avaient été déjoués ces dernières semaines. Nous savions que nous étions menacés, comme d'ailleurs d'autres pays dans le monde. Nous sommes menacés parce que nous sommes un pays de liberté. Et parce que nous sommes un pays de liberté, nous conjurerons les menaces et nous punirons les agresseurs. Personne ne doit penser qu'il peut agir en France contrairement aux principes de la République et atteindre l'esprit même de la République, c'est-à-dire un journal.
François Hollande, alors l'écœurement, la consternation, le soutien aux journalistes et à la liberté de la presse, les réactions sont tombées et tombent encore en avalanche, Frédéric Saïs, notamment dans le monde politique.
Oui, à l'image de ces mots, faire bloc, employés par François Hollande, les appels à l'unité nationale se multiplient et transcendent les partis politiques. Nicolas Sarkozy, depuis le siège de l'UMP, a appelé cet après-midi à refuser la tentation de l'amalgame et à présenter un front uni face au terrorisme. Au parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon note que cet acte vise à nous diviser selon nos opinions, nos religions ou le reste. La présidente du Front National, Marine Le Pen, estime que le peuple français est tout à fait aux côtés des morts et des blessés. Mais elle n'évoque pas en revanche l'union des forces politiques. Union qui est peut-être le mieux symbolisée par ce communiqué commun signé de tous les groupes présents à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée, Claude Bartolone, et les chefs des groupes politiques appellent à l'union de toutes les forces républicaines pour défendre sans concession et sans faiblesse cette France que nous aimons tant. Selon les signataires, le massacre dans les locaux du journal Charlie Hebdo met la communauté nationale et ses représentants au défi de la démocratie et des valeurs. Alors, quelle réponse apporter à ces actes? François Hollande livrera sa vision ce soir à 20h depuis l'Elysée. Nicolas Sarkozy affirme, lui, que le gouvernement doit prendre des mesures fortes et que l'UMP soutiendra sans réserve ses initiatives. Pas plus de précisions sur ces initiatives au FN. Le FN estime qu'il faut mettre tout en œuvre pour prémunir la réitération de ce type d'attentat. Europe Écologie Les Verts appelle au recueillement dans l'unité, la réaffirmation des valeurs de solidarité et de tolérance, les meilleures réponses à apporter à l'obscurantisme et à la barbarie. Finalement, la vraie nuance entre les partis politiques réside dans la manière de nommer les assaillants, de misérables lâches assassins qui tuent les sans-défense, écrit Jean-Luc Mélenchon dans un tweet. François Hollande évoque sobrement les auteurs, les responsables de cet attentat terroriste. Nicolas Sarkozy parle, lui, des coupables de ces actes barbares. Marine Le Pen cite de son côté les fondamentalistes islamistes. Il y a quelques minutes, les drapeaux ont été mis en berne à l'Élysée, à Matignon, au Sénat et à l'Assemblée nationale, ainsi que dans de nombreuses villes de France.
Merci beaucoup Frédéric Saïs. Barbarie, crime exécrable, autant de qualificatifs utilisés par l'ensemble des dignitaires religieux musulmans en France en réaction à cet attentat. Parmi eux, Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris, interrogé tout à l'heure par Laetitia Saavedra.
Nous sommes choqués, nous sommes absolument abasourdis et nous sommes dans un état de condamnation absolue de ces faits qui bouleversent l'ordre de notre démocratie et l'ordre de nos libertés.
Les policiers ont entendu les deux tireurs dire « on a vengé le prophète ». Il y a une vidéo où on les entend crier « Allahu Akbar ». Quelle est votre réaction par rapport à ce point-là?
Eh bien, ça indique totalement, jusqu'à plus informé, que les auteurs se réclament de ces mouvances radicales, de ces mouvances détestables et qui alimentent le djihadisme et toute cette mouvance. C'est du terrorisme. Nous sommes entièrement dans la barbarie, dans le crime, dans l'exécrable.
Dalil Boubaker, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Alors à l'étranger, les réactions sont venues également de toutes parts. Dans le monde arabe, la condamnation est unanime, Claude Guibal.
Unanime et très rapide, notamment en Égypte. Le gouvernement égyptien s'est dit aux côtés de l'État français contre le terrorisme. Même tonalité du côté de la Ligue arabe. Et puis il y a Al-Azhar. Alors Al-Azhar, vous le savez, c'est considéré comme la principale autorité de l'islam sunnite, même si son cheikh est en fait nommé par l'État égyptien. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, c'est la voix de l'islam officiel en Égypte. Al-Azhar a donc déploré une attaque criminelle et martelé que l'islam dénonce toute forme de violence. En Tunisie, c'est le président d'Ennahda, l'islamiste Rached Ranouchi, qui a exprimé avec force son horreur et son indignation. Ennahda condamne l'acte terroriste, mais aussi ses auteurs, ses instigateurs et surtout tous ceux qui les soutiennent. Un petit peu partout dans le monde arabe, les voix civiles aussi se font entendre, mais il va falloir attendre un petit peu encore avant de voir quelle sera la tonalité des éditoriaux de la presse écrite, notamment en Égypte. Une presse qui, à l'inverse, avait été plutôt encline à condamner la parution des premières caricatures du prophète. Rappelez-vous, c'était en 2006, les caricatures danoises qui aussi avaient été republiées par Charlie Hebdo. À l'époque, l'Égypte, le gouvernement égyptien avait été le premier à condamner ces caricatures. On était à l'époque d'Hosni Moubarak. L'Égypte avait même suspendu le dialogue engagé alors avec le Danemark à propos des droits de l'homme. Un grand boycott des produits danois avait suivi et la population dans son ensemble avait encouragé ce boycott. Il faut dire que ce soir, effectivement, la tonalité est très différente. Le ton, je vous le disais, est à l'indignation et la solidarité.
Claude Guibal, réaction également dans le monde occidental. Tous les Américains sont aux côtés des Français. Une phrase prononcée en français par le secrétaire d'État américain tout à l'heure. John Kerry s'exprimait juste après la condamnation de l'attentat par Barack Obama dans un communiqué.
Aucun pays ne sait mieux que la France que la liberté a un prix, parce que c'est en France que de nombreux idéaux démocratiques ont vu le jour. La liberté d'expression et la liberté de la presse sont des valeurs fondamentales, universelles. Il arrive que ces principes soient attaqués, mais jamais ils ne pourront être éradiqués. Je suis d'accord avec l'imam de France qui a dit aujourd'hui que les journalistes assassinés sont des martyrs de la liberté. Les assassins ont proclamé aujourd'hui que Charlie Hebdo est mort. Soyez sûrs d'une chose, ils ont tort. Aujourd'hui, demain, à Paris, en France et à travers le monde, le pouvoir de la liberté d'expression vaincra dans la lutte contre l'obscurantisme.
Le secrétaire d'État américain John Kerry. Nous avons en ligne avec nous le dessinateur de presse algérien Dilem, qui interviendra aussi avec vous, Hervé Gardet, dans la deuxième partie. Est-ce que je peux vous demander votre réaction, Dilem, face à ce crime qui a touché vos collègues français?
Écoutez, je suis sidéré. J'attends encore qu'on me dise qu'on va se réveiller de ce cauchemar, parce que les quatre dessinateurs qui sont annoncés morts à l'heure actuelle, je les connaissais et certains même très très bien. J'étais avec Tinius encore il y a moins de deux semaines. Je suis profondément meurtri, touché. Et des gens à qui je dois beaucoup. C'est des gens qui m'ont accueilli quand j'étais presque apatride. En 94, j'ai dû fuir l'Algérie parce que menacé de mort. C'est eux qui m'ont ouvert les bras et même les colonnes de leur journal pour pouvoir continuer à dessiner. J'ai appris à aimer le dessin, j'ai appris même à connaître la France à travers les dessins de Cabu. Wrolinski était une institution et Tinius, qui était de ma génération et qui je partageais plein de valeurs et même plein de loisirs. On a exposé il n'y a pas longtemps en Afrique tous les deux, on a fait l'aller-retour en avion, on a parlé, y compris tout ça. J'ai essayé aussi de le faire profiter, j'allais dire, de ma petite expertise, étant dans un pays où les journalistes sont menacés depuis une vingtaine d'années, où il y a eu des dessinateurs aussi en Algérie qui ont été assassinés, où une espèce d'ironie, un journal qui a connu le même sort en Algérie qui s'appelait l'Hebdo Libéré, où des terroristes à l'époque ont mitraillé la rédaction. Ils ont fait 84 morts, je crois, c'était en 94. Donc j'ai essayé d'attirer son attention sur cette menace qu'il fallait jamais la prendre à la légère, qu'il n'y avait qu'un seul moyen de vérifier une menace, hein, c'est d'y être confronté. Malheureusement, c'est arrivé aujourd'hui. Je m'y attendais pas, personne ne s'y attendait. Encore une fois, je suis comme soufflé par une déflagration. J'attends qu'on me dise que ça s'est pas produit, malheureusement. On est en plein dedans.
Hervé Gardet.
Oui, Ali Dilem, vous restez avec nous encore quelques minutes si vous le voulez bien. Nous sommes également en ligne avec depuis la Belgique avec Philippe Geluck. Bonsoir Philippe Geluck.
Bonsoir.
Également première question, évidemment, c'est votre réaction, même si c'est comment réagir avec ce genre d'acte qui nous sidère tous. Mais vous aussi, ce sont des parmi les victimes, donc je rappelle, hein, Wrolinski, Cabu, Charb, Tinius sont des gens que vous connaissiez bien.
Bien sûr, c'est des amis et des maîtres pour les deux plus anciens. Je suis effondré, évidemment. Je suis broyé de chagrin. Je pense à leurs proches, avant tout. Et au-delà, j'en profite pour saluer Dilem. Je ne sais pas si on pourra se parler tout de suite. Mais évidemment, on sait que ce sont des hommes qu'on a abattus, mais que c'est un symbole que l'on visait, et que c'est le symbole de, je veux dire, c'est la presse satirique, mais c'est toute la presse qui est visée, et au-delà de ça, c'est la démocratie, c'est la liberté de penser, et donc c'est très très grave. Moi, je pense que le 7 janvier 2015, c'est un 11 septembre d'une autre échelle, mais d'une gravité égale.
Dilem nous disait qu'il avait discuté, on va revenir justement avec lui, puis si vous voulez également dialoguer tous les deux, mais qu'il avait discuté notamment avec Tinius sur les risques qui étaient encourus. Est-ce qu'ils avaient conscience des risques qu'ils couraient jusqu'à se dire que ça pouvait aller jusque-là? On se dit c'est assez impossible, c'est inimaginable, inenvisageable, et pourtant il fallait peut-être bien l'envisager malgré tout.
Ben, il fallait l'envisager, d'autant plus que, si je ne m'abuse, Charb était sous protection policière. depuis le cocktail Molotov lancé sur Charlie Hebdo il y a quelques années. Donc c'était une menace qui était réelle, mais comment, je veux dire, quand on vit dans une démocratie, quand on vit en paix dans un pays apaisé, libre, comment peut-on imaginer que l'horreur puisse tout à coup se déclencher comme ça? Et je suis enfin très je vais redire une fois ce que j'ai souvent dit, et notamment à Dilem, que j'ai, et je l'ai dit souvent, j'ai une admiration énorme pour les dessinateurs comme lui qui, dans des pays, dans certains pays totalitaires ou dans des pays extrêmement religieux, continuent à dessiner des choses contre le pouvoir, au prix parfois de leur liberté personnelle. Nous, en Belgique ou en France ou en Suisse, je veux dire, on était bien tranquille, on peut parler de liberté d'expression. Mais on n'a pas les policiers, on n'a pas la Stasi, on n'a pas la police religieuse qui peut frapper à notre porte.
Quand vous dites, Philippe Gueluc, qu'on était bien tranquille, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous sentez moins tranquille? Enfin, comment est-ce qu'on peut faire quand on est, alors pas quand on est tous citoyens évidemment, mais peut-être en particulier ceux qui étaient visés aujourd'hui, c'est-à-dire des dessinateurs de presse, pour résister à une forme de peur qui pourrait conduire à quoi? À ne plus dessiner justement, ou ne plus tout dessiner?
Ah ben c'est ça. Alors devant un tel coup de semonce, il faut baisser le crayon et ne plus ne faire? Évidemment non. Il faut redire haut et fort notre attachement à la liberté de la presse. Mais regardez, pendant les années de plomb en Algérie, et Dilem vous en parlera mieux, le nombre d'intellectuels et d'artistes qui se sont fait assassiner, ce sont des heures noires. On a connu ça sous le fascisme dans nos pays pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si on disait des choses contre l'occupant, on valsait en camp de concentration. Est-ce que c'est ça qu'on est en train d'installer ici? C'est un état de guerre qui s'est déclaré aujourd'hui. Alors certes, moi je continue à dire haut et fort, mais je veux dire, face à une vraie menace, on réfléchit sans doute à la façon dont on le dit. Mais je continue à dire haut et fort que l'on doit pouvoir parler de tout, rire de tout tant que c'est possible, mais en tout cas parler de tout. Parce que le rire est une manière d'aborder les sujets. Le rire est une des branches de la philosophie qui permet d'analyser les situations. Mais la pensée libre est menacée aussi. Pourquoi c'est fou, pourquoi c'est malade ne s'attaquerait-il pas à la presse généraliste et à ceux qui analysent l'actualité?
Alors je pense qu'Ali Dilem vous a écouté attentivement. Une réaction, Dilem, justement, à ce que vient de dire Philippe Gueluc. Tant qu'on peut rire de tout, il faut le faire.
Non mais c'est clair. Il a raison de dire que c'était un acte de guerre. Et un acte de guerre, il faut répondre. Mais on ne peut répondre que par ce qu'on sait faire, c'est-à-dire dessiner. Continuer, c'est déjà les affronter, c'est déjà les combats. Mais en plus de ça, il y a comment dirais-je, j'étais condamné à mort en 92. Je vais en parler parce que ça n'avait pas mérite. On n'est pas un meilleur dessinateur parce qu'on est menacé. Hein. Mais j'ai dû faire mon deuil sur une vie normale à partir du moment où j'ai eu les premières menaces. Je me rends pas, je sais pas si je dois le dire d'ailleurs, mais je me rends pas au journal. Ça fait plus de 13 ans que j'ai pas mis les pieds dans le journal. J'essaie de me planquer, mais je me dis que voilà, il faut me donner les moyens de continuer à dessiner. J'essaie de le faire dans le confort, dans mon petit chez moi en Algérie, mais avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je me sens presque planqué. Je culpabilise presque de vivre en Algérie où on assassine beaucoup moins et on assassine plus les journalistes, et c'est transférer un peu chez vous. Nul n'est à l'abri parce qu'on est en face de gens qui ne sont pas sur les mêmes repères matériels et spirituels que nous. On a des fous en face. On a des fous. Ils ne comprennent pas que qu'ils continuent à tuer T-News. C'est la bonté même. Je pense déjà à ces filles et ça me rend malade. C'est pas quel mot, j'ai l'intention d'aller d'assister à un funérail d'ailleurs, mais qu'est-ce que je pourrais leur dire, moi vivant, continuant à dessiner, et leur papa, génialissime dessinateur de ma génération, encore une fois, qu'on va mettre ça.
Ouais, continue à dessiner malgré tout. Nous a rejoint également au téléphone Stéphanie Valoato. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes.
Bonsoir Ali aussi, parce que je le connais.
Voilà, vous le connaissez. Je vais peut-être dire pourquoi. Il se trouve que vous êtes réalisatrice d'un documentaire qui est sorti en salle en mai dernier, qui s'intitule « Caricaturiste fantassin de la démocratie ». Vous avez réalisé le portrait d'une douzaine de caricaturistes dans le monde entier, qui dessinent, là aussi, qui dessinent malgré tout. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire avec ce qui s'est passé en France, donc à Paris, à Charlie Hebdo, c'est-à-dire que les caricaturistes, les dessinateurs de presse peuvent se sentir en danger n'importe où dans le monde. Est-ce que vous aviez en tout cas ressenti cette présence du danger au contact de ces caricaturistes en faisant votre documentaire ?
Bien sûr, c'était l'objet même du film d'ailleurs, puisque on a choisi 12 dessinateurs dans le monde et il y a des pays où, comme le Venezuela, la Chine, la Russie, la Syrie et l'Algérie, Ali en parlait, il y a une époque où c'était vraiment terrible. Et je dirais même que ces caricaturistes ont conscience du danger. Ils savent très bien ce qu'ils font. D'ailleurs, pour le film, quand je les ai interviewés et que j'aurais demandé si vous voulez témoigner, j'aurais dit, vous courez un danger puisqu'on va montrer votre visage. Comme dit Ali, quand on est à son bureau, c'est vrai qu'on ne vous voit pas forcément. Mais le crayon étant une arme, ces dessinateurs-là risquent leur vie dans plein de pays. Mais je ne pensais pas qu'en France... ils pourraient être assassinés de cette manière aussi barbare. Même Plantu, qui dessine depuis plus de 40 ans au Monde, je ne pense pas qu'on pouvait imaginer ça. Et c'est là où maintenant, on se dit tout est possible. Mais comme le dit Ali, je pense qu'ils vont continuer parce qu'eux, ils savent qu'ils sont en danger, qu'ils risquent leur vie, qu'ils risquent d'être mis en prison dans certains pays. Je pense aux Russes qui dessinent toujours Poutine alors qu'il n'a pas le droit. La Vénézuélienne qui s'est fait virer de son journal parce que Maduro a pris le pouvoir et que les actionnaires l'ont foutu à la porte et qu'elle peut être en prison, mais elle continue à dessiner contre ce pouvoir corrompu. Ces dessinateurs sont en première ligne et c'est pour ça qu'on a dit que c'était des fantassins de la démocratie, c'est des fantassins de la liberté d'expression, de la liberté tout court. Et c'est un hommage que j'aimerais leur rendre, comme dit Ali, de penser à Tignous et à ses enfants, de penser à Wolinski, à sa femme, de penser à Cabu, qui font partie de notre paysage. Moi, depuis mon enfance, ces dessinateurs-là, je les connais. Et sans eux, je ne sais pas comment on va faire, mais en tout cas, il va falloir continuer le combat.
Philippe Geluck et Ali Dilem, on s'interroge tous depuis quelques heures, évidemment, sur la réponse qu'il faut apporter à cet acte terroriste. Alors, à la fois la réponse du point de vue des dessinateurs, mais la réponse des citoyens, et puis aussi nous, médias, parce qu'on est totalement tétanisés par ce qui se passe. Est-ce que vous diriez, par Philippe Geluck, qu'il y aurait besoin d'une expression de solidarité, en particulier à l'égard, justement, de ce métier que vous représentez, c'est-à-dire celui des dessinateurs de presse et des caricaturistes qui se moquent de tout?
Oui, peut-être. Oui, bien sûr, des manifestations de solidarité pour des gens qui apportent. Alors moi, je me sens évidemment un petit peu. Je veux dire, je suis pas un dessinateur militant, je suis pas un dessinateur politique, mais je suis forcément totalement en symbiose et en osmose avec eux, et je les défendrai jusqu'à mon dernier souffle.
Vous en prenez aussi à la religion, donc enfin, j'imagine que vous vous sentez
sûr
un peu.
Mais je veux dire, c'est aussi une manière, parce que ils sont tellement importants pour les gens parce qu'ils apportent. L'humour, le dessin d'humour, la pensée en général, c'est fait pour rendre la vie plus belle, c'est fait pour éclairer la pensée, c'est fait pour apporter du bonheur, de la joie, le rire, c'est la vie. Et ce qu'on veut tuer, là aussi, c'est la vie et c'est l'amour de la vie. Et c'est ça qui est détestable. Donc évidemment, tout ce qui va dans le sens de l'expression de la solidarité sera évidemment bienvenu. Je pense que j'ai entendu passer tout à l'heure l'information que plusieurs journaux voulaient, par solidarité, publier les caricatures de Mahomet dans leur colonne. Je pense pas que ce soit forcément une bonne idée, parce que ça risque, je veux dire, ça va énerver les énervés, mais ils sont déjà énervés, et puis ça va blesser des gens qui ont rien demandé à personne.
C'est pas la peine d'en rajouter, Ali Dilem.
Bah, écoutez, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Geluck et Stéphanie en raison de dire qu'il fallait continuer, parce que franchement, je pars pas du principe, quand je commence le matin à faire un dessin, je me dis pas à qui je vais m'attaquer aujourd'hui, j'essaye pas de faire de mal, c'est pas une expression de haine, j'essaie pas d'inoculer le virus de la haine dans le dessin. Il faut que les gens en général, ces gens-là, les musulmans ou tout autre adepte d'autres religions, comprennent que c'est pas véhicule, c'est pas un rejet. En fait, j'essaie juste de faire l'imbécile. Mon seul génie, c'est peut-être de faire l'imbécile et d'être publié. Personne ne mérite de mourir parce qu'il a fait un destin. C'est quand même au-delà de toute logique humaine que de payer le prix du sang parce qu'on a fait un destin.
Merci beaucoup Ali Dilem, Philippe Gueluc et Stéphanie Valoato de nous avoir consacré quelques minutes dans cette journée particulièrement douloureuse. Anne-Laure Choin.
Oui, on revient à cet attentat et à ce nouveau bilan délivré tout à l'heure par le procureur de la République qui n'a pas beaucoup délivré de nouveaux éléments sur l'enquête, mais cet attentat a fait 12 morts et donc 11 blessés. Puis on vient d'apprendre qu'une nouvelle réunion de crise aura lieu demain matin à l'Élysée. Alors, sur les réseaux sociaux, la nouvelle de l'attentat s'est répandue presque immédiatement après à peine le drame avait-il pris fin que les premières photos et surtout les premières vidéos ont commencé à circuler. Des vidéos au contenu violent, voire choquant, Catherine Pétillon.
Oui, dès la fin de la matinée, on a vu circuler les premiers témoignages de personnes sur place, de voisins et rapidement leurs images et notamment une vidéo montrant les assaillants lorsqu'ils abattent froidement boulevard Richard Lenoir, un policier à terre. Mais avec ces images glaçantes sont rapidement apparus aussi les premiers appels d'internautes à ne pas les partager ni les diffuser. Des réactions qui illustrent les tentatives des utilisateurs de réseaux sociaux à établir leurs propres règles, leurs propres éthiques face aux événements de ce type. Des phénomènes d'autorégulation qu'on avait déjà vu émerger dans un autre contexte qui était la mise en ligne des décapitations d'otages.
Alors, comme souvent, on a vu apparaître pour commenter l'événement sur les réseaux ces mots dièses ou hashtags. Et aujourd'hui, c'est donc le mot dièse « Je suis Charlie ».
Oui, très vite. Il a été partagé aussi bien par des inconnus que par des personnalités politiques, des journalistes et des dessinateurs. Et il s'est répandu à travers le monde entier. À 18h30, près de 400 000 tweets avaient utilisé ce slogan pour exprimer solidarité, indignation, soutien à Charlie Hebdo et plus généralement à la liberté d'expression. Une bannière noire reprenant ces mots circule aussi beaucoup. L'image a remplacé la photo de nombreux profils, y compris très officiels, comme par exemple celui de l'ambassade des États-Unis en France. Alors c'est bien sûr la solidarité qui domine, mais au milieu on trouve aussi des tweets de haine et des reprises politiques de l'événement. Le journaliste de France 24, Wassim Nasser, relève aussi que des comptes identifiés comme pro-État islamique, dans ces comptes donc la création d'un hashtag qui dit « État islamique dans le centre de Paris ». Ces comptes qui relaient à foison les images du policier tué monté sur fond de louanges religieuses. Alors reste bon qu'après cet attentat, c'est sur les réseaux qu'une mobilisation spontanée a pris corps pour rendre hommage aux victimes. Une page Facebook créée cet après-midi, nommée « Soutien à Charlie », relaie les appels à rassemblement, comme ce soir dans de nombreuses villes de France, mais aussi d'Europe.
Et notamment à Paris, place de la République, un rassemblement qui doit débuter à 19h, mais il y a déjà énormément de monde, 5000 personnes au moins en soutien à Charlie Hebdo. On y reviendra peut-être avec un envoyé spécial en direct avant 19h. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'attentat terroriste de ce matin qui a tué, on le rappelle, 12 personnes, dont plusieurs journalistes de Charlie Hebdo, Cabu, Charb, Volinsky, TNews et le chroniqueur Bernard Maris. Vous y reviendrez évidemment dans quelques minutes largement, Hervé Gardette. Quelques mots tout de même, en bref, du reste de l'actualité, avec la démission finalement de Thierry Lepan, le patron de la CGT, après plusieurs jours de tergiversation. Le secrétaire général de la CGT a démissionné avec tous les membres du bureau confédéral du syndicat dans la foulée des scandales sur la rénovation de son domicile de fonction et puis sur une prime reçue à son départ de ses précédentes fonctions en Normandie. Thierry Lepan, qui avait pourtant lancé une contre-offensive dans les médias et au sein de son organisation. Le prochain congrès de la CGT n'est prévu qu'en 2016. Pour l'instant, pas de successeur à Thierry Lepan. Et puis, actualité sociale toujours, plus d'un millier de suppressions de postes sont prévues à la SNCF pour cette année 2015. Une annonce rendue publique au comité central de l'entreprise ce matin dans le nouveau groupe issu de la réforme ferroviaire. SNCF Mobilité perdra 1600 postes. SNCF Réseau, en charge de l'infrastructure, en gagnera 500. Il est 18h43 sur France Culture. Hervé Gardette.
Et c'est la suite de cette édition spéciale consacrée à l'attentat de ce matin à Charlie Hebdo à Paris. Nous a rejoint Christine Lazerge. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de droit privé à l'Université Paris 1. Vous êtes surtout ici en tant que présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH. Bah, tout d'abord, une réaction à ce qui s'est passé ce matin. Sidération, comment est-ce qu'on peut qualifier les faits?
On a de la peine à choisir le terme. Sidération, cauchemar, indignation, horreur, barbarie. tout cela autour d'un carnage. Les premiers mots, évidemment, je veux les adresser aux familles des victimes et à Charlie. Ces 12 familles dans la douleur ce soir et ce journal qui est un élément fort, fondamental de notre démocratie. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des caricaturistes comme fantassins de la démocratie, de la liberté d'expression. J'ai envie de rappeler l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. C'est donc à un des droits les plus précieux de l'homme que l'on s'est attaqué de façon quasi bestiale ce matin. Et ce droit le plus précieux, c'est celui qui permet aussi de parler de démocratie. Là où il n'y a plus de liberté d'expression, il n'y a plus de démocratie. La CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, est particulièrement vigilante sur la question de la liberté d'expression. Et par exemple, nous avons rendu un avis très récent sur la protection des sources. Bref, nous sommes sans doute l'institution de la République qui est en veille sur la liberté d'expression.
Alors ce qui est important peut-être, Christine Lazerge, c'est aussi que, au-delà d'institutions comme celle que vous représentez, la CNCDH, que l'ensemble des citoyens, enfin l'ensemble, un maximum de citoyens, montrent qu'ils sont attachés à cette question, en particulier de la liberté d'expression. Il y a un certain nombre de rassemblements qui sont organisés. Anne Lorchouin le disait il y a un instant, il y a déjà pas mal de monde, Place de la République à Paris, environ 5000 personnes. Ils sont plus de 10 000 personnes à Lyon. Il y a une centaine de rassemblements qui sont recensés, organisés d'ici la fin de la semaine. Qu'est-ce qu'il est important d'apporter comme réponse républicaine à ce qui vient de se passer? Est-ce que c'est de dire on n'a pas peur? Est-ce que c'est de dire on est solidaire avec Charlie Hebdo? On ne se laissera pas diviser? C'est tout ça?
Il faut dire plusieurs choses. Il faut dire on est solidaire avec Charlie Hebdo. Ça, il faut le dire haut et fort. Et moi, je souhaite qu'il y ait de très nombreux rassemblements et qu'au sein de ces rassemblements, il y ait des personnes dont les options politiques ne sont pas les mêmes. Je pense très important qu'il y ait, au fond, un rassemblement démocratique et républicain qui fasse fi de conflits sur des questions complètement secondaire ce soir.
Il ne s'agit pas d'avoir un rassemblement de gauche d'un côté, un rassemblement de droite de l'autre.
Absolument, et au-delà. Il faut aussi mettre en garde, et ça nous y sommes extrêmement attachés à la CNCDH, puisque nous sommes en charge du rapport annuel sur le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, mettre en garde contre toute tentation d'amalgame. Et il se trouve que j'ai rencontré plusieurs musulmans cet après-midi qui sont extrêmement inquiets, et je le comprends.
Ils vous disent quoi ?
Qui disent, on va considérer que être musulman est être une graine de terroriste. En quelque sorte. Alors, nous ne savons pas d'ailleurs encore exactement quelles sont les raisons, mais enfin, on les devine. C'est quand même assez signé, mais il y a un respect de la présomption d'innocence qui m'empêche absolument de parler plus avant des auteurs. Mais par contre, je peux parler de la montée de l'islamophobie et dans le rapport 2014 que nous rédigeons. Je vais changer mon avant-propos après ce qui s'est passé aujourd'hui.
Parce que déjà dans le précédent rapport au printemps dernier, Vous évoquiez dans ce rapport une montée préoccupante de l'intolérance En disant les nouveaux avatars du racisme, le Rhum et l'arabo-musulman, qui sont les cibles privilégiées de cette recrudescence de l'intolérance.
Absolument. Alors, le Rhum subit un rejet de tous les jours, quotidien. Bien sûr, jusqu'à présent, à la CNCDH, on parlait d'actes anti-musulmans. Le terme islamophobie rend mieux compte d'un état d'esprit. Et nous sommes d'ailleurs aussi très inquiets des actes antisémites très lourds et graves de conséquences qui ont eu lieu cette année.
Donc il y a une forme de responsabilité, à la fois politique, médiatique aussi, peut-être, à faire tout ce qu'il faut à la fois. C'est-à-dire on ne peut pas ne pas parler de ce qui s'est passé, bien entendu, et à la fois de faire attention à ne pas... à ne pas donner du grain à moudre, si j'ose dire, à ce genre de dérive et de montée de la tolérance.
Oui, et il y a aussi à dire que ce n'est pas en abandonnant quelques principes fondamentaux dans la garantie des libertés pour faciliter une poursuite ou renforcer une condamnation. Ce n'est pas dans cet écueil-là que nous devons tomber. La France doit être fière des garanties qu'elle offre à toute personne poursuivie. Elle ne doit pas, à la suite de ce qui s'est passé aujourd'hui, ouvrir ou élargir les règles dérogatoires en matière de procès équitable.
Alors justement, Christine Lazerge, vous étiez venue en septembre dernier dans Du Grain à Moudre autour de cette question. C'était au moment de la discussion au Parlement sur la nouvelle législation antiterroriste. On avait fait une émission qu'on avait intitulée « La législation antiterroriste menace-t-elle les libertés publiques ?» Vous aviez mené une discussion avec Thibault de Montbrial. Il se trouve qu'on a réussi à le joindre au téléphone. Il est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes spécialiste notamment de questions d'antiterrorisme. Vous avez déjà eu l'occasion de vous exprimer plusieurs fois dans cette émission sur ces questions-là. Je rappelle que nous, on vous avait repéré, si j'ose dire, Thibault de Montbrial, parce que vous aviez co-signé une tribune avec le juge antiterroriste Marc Trévidic, dans laquelle, c'était il y a quelques mois de cela, vous appeliez à un renforcement de la législation antiterroriste. Et je me souviens très bien que dans l'émission à laquelle vous aviez participé en septembre dernier, vous nous aviez dit, ça m'avait extrêmement surpris, voire un petit peu choqué. On est sûr aujourd'hui qu'un attentat important, un attentat donc terroriste islamiste, aura lieu en France, peut-être à Paris. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand. Est-ce que vous diriez que cet attentat-là était prévisible ?
Malheureusement, oui. Aujourd'hui, je suis très triste, mais je ne suis absolument pas surpris. J'ai, comme tous les gens qui s'intéressent à ces questions, un mélange de tristesse et de détermination. Ce qui est arrivé était inéluctable. Il faut malheureusement s'attendre à ce que ça recommence. On est en train de voir. Le président Hollande a dit en septembre, un petit peu après notre émission, il a dit il faut bien que nos compatriotes comprennent que nous sommes en guerre. Nous sommes en train de comprendre que compte tenu de la nature de l'ennemi, parce qu'à la guerre il y a des ennemis, cette guerre n'épargnera pas le territoire français, c'est quelque chose qui est nouveau.
Alors attendez, si on parle de guerre, Thibault de Montbrial, ça veut dire qu'on met les moyens qui sont associés à ce type de climat guerrier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mobiliser, par exemple, l'armée pour essayer de limiter le risque terroriste ?
Mais Monsieur Gardner, l'armée française fait la guerre, c'est précisément une partie du problème, c'est que l'armée française fait actuellement la guerre depuis plusieurs mois en Irak et en Syrie contre notamment l'État islamique. Donc ce que voulait dire le président Hollande, c'est qu'il y a cette guerre là-bas et que compte tenu des enjeux et des appels de nos ennemis sur place, il était inéluctable qu'à un moment ou à un autre, cette guerre vienne empiéter notre tranquillité sur notre propre sol, ce qui est la première fois dans l'histoire contemporaine de notre pays. Maintenant, les moyens, je pense que le gouvernement, qui est tout à fait lucide sur l'état du risque depuis plusieurs mois, les moyens sont mis en place depuis un certain temps. Il y a des moyens juridiques. On a parlé de vous rappelez cette émission, on a parlé de la loi qui a été finalement adoptée. Il y a des moyens policiers. Le 23 décembre, il y a eu un comité interministériel à l'issue duquel, après notamment l'affaire de Jouer les Tours, il y a eu un renforcement des consignes au personnel de gendarmerie et de police. Mais comme vient de le dire Madame le Président de la Commission consultative des droits de l'homme, tout l'enjeu c'est de pas renoncer à ce que nous sommes. C'est donc il va maintenant falloir que nos gouvernants et nos forces de sécurité trouvent un équilibre entre le nécessaire renforcement de la protection d'un certain nombre de sites. Je crois qu'il faut pas tomber dans la naïveté. Il y a un certain nombre de renforcements de moyens de sécurité qu'il va falloir mettre en œuvre et pour autant ne pas obérer notre liberté d'aller et venir et ce qui fait que nous sommes une démocratie et un pays dans lequel il est si agréable de vivre.
Christine Lazerge, toute la difficulté, c'est de garder cette lucidité dont créditait Thibault de Montbrial.
Oui, alors garder cette lucidité, bien entendu. Mais ne pas ruiner les principes qui font que nous sommes une démocratie. Et je crois que là-dessus, il y a d'ailleurs un fort consensus.
Il y a un fort consensus, sauf qu'on ne sait pas encore quelle va être la pression de l'opinion publique, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là. Mais enfin, en tout cas, il va y avoir une pression pour prendre des mesures beaucoup plus fortes en matière de sécurité. Oui, comment est-ce qu'on fait pour apporter une réponse pertinente en la matière ? Est-ce qu'il faut tout de suite, par exemple, tenir un discours sur « il faut préserver nos libertés » ou bien est-ce que ce n'est pas tout à fait le moment? En tout cas, est-ce que c'est compliqué d'avoir un discours audible sur le sujet actuellement?
J'ai entendu tout à l'heure, et je trouve que c'est intéressant de l'avoir entendu, dire que les caricaturistes vont continuer à dessiner. Ils ne vont pas lever leur crayon. Et donc, je fais le parallèle avec la défense des libertés publiques. On ne va pas mettre sous l'été noir la défense des libertés publiques parce qu'on lutte contre le terrorisme. On vient de parler d'équilibre. Oui, bien sûr, il y a un équilibre. Il y a toujours un équilibre entre liberté et sécurité. Mais ce qui est sûr, c'est que la plus grande victoire du terrorisme serait de mettre en péril l'état de droit. Nous sommes obligés, contraints, on ne peut pas être naïf, de prendre un certain nombre de mesures de sécurité. Mais on doit veiller avant tout de ne pas, dans le même temps, bafouer ce que le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme préservent pour toutes les démocraties européennes.
Vous voulez dire qu'il y a quand même, malgré tout, il peut y avoir en tout cas cette tentation, je me souviens. Donc, on va pas refaire l'émission de septembre dernier, mais je vous avais posé la question, je me souviens, de savoir si on pouvait peut-être s'attendre à un Patriot Act à la française, c'est-à-dire sans faire trop de parallèles avec la situation qui peut être celle des États-Unis il y a quelques années. Est-ce que ce risque-là existe?
Franchement, pas trop. Enfin, on ne va pas créer un Guantanamo quand même. Je veux dire, là-dessus, soyons très clairs. On ne peut pas prendre n'importe quelle mesure ici, en France, dans ce pays, qui saperait la démocratie au motif de la défendre. Mais par contre, évidemment qu'il y a des mesures de sécurité. Mais on voit là, Charlie Hebdo était sous protection. Le policier qui protégeait les locaux a été descendu, assassiné le premier. Le concierge de l'immeuble l'a été aussi. Et vous voyez que face à des actes de barbarie, je crois qu'il faut parler de ça, face à des fous furieux, la mesure des mesures de protection est difficile à trouver. Et on est confronté à des actes de folie furieuse, Et donc, ce que nous pouvons préserver, nous, c'est quand même nos convictions profondes qui doivent servir d'exemple et ne pas tomber dans des tentatives. Comment voulez-vous protéger le policier qui protège les locaux de Charlie Hebdo? Ça va être compliqué. Donc, il faut aussi avoir le courage politique d'expliquer aux Français que les mesures de sécurité, quelquefois, ne peuvent pas être prises contre la folie furieuse et que le risque zéro n'existe pas. Le risque suprême que nous pourrions prendre, c'est de mettre à bas les principes qui font de la France un état de droit.
Thibault de Montbrial.
Non, mais là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites en les qualifiant de fous furieux. Ce n'est pas de la folie furieuse, c'est de la détermination. Et c'est une énorme... C'est une erreur de départ de raisonnement qui est fondamentale. Parce qu'en se réfugiant derrière, c'est très confortable de considérer que ces gens sont fous. Parce qu'en considérant qu'ils sont fous, c'est une forme d'une part d'exonération d'origine de leurs actions, mais ça on va y revenir, mais c'est aussi une manière de se dire, bon, ils ne sont pas dans le même univers que nous, donc il y a bien un moment où ça va s'arrêter de soi-même, ça ne peut être qu'épisodique, accidentel, etc. Ce n'est pas parce qu'ils commettent des actes d'une barbarie telle que nous avons oublié ce que c'était, et heureusement, en Occident, que ce ne sont pas des gens qui sont mus parce qu'eux considèrent comme étant un mobile politique. C'est pour ça que j'ai parlé de guerre tout à l'heure. De psychiatriser, parce que fou furieux, c'est psychiatriser, de psychiatriser l'action de ces gens-là, c'est commettre une erreur initiale de raisonnement que je trouve très, très dangereuse.
Qui n'était peut-être pas exactement l'intention de Christine Lazer, juste d'un mot.
En aucun cas, c'est fou au sens psychiatrique. Malade mental, privé de libre arbitre. C'est pas cela. On est dans des fondamentalismes qui conduisent à la barbarie.
Voilà. Et en tout cas, on voit bien avec ce que vous venez de dire tous les deux, hein, Thibault de Montbrial et Christine Lazerge, à quel point aussi l'utilisation des mots pour qualifier ces actes dont on ne sait pas grand-chose, en tout cas du point de vue de leurs auteurs, vont être importants justement pour essayer de ne pas tomber dans les dérives que vous évoquiez l'un et l'autre. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir réagi sur notre antenne. On est presque au terme de cette édition spéciale. Anne Lorchouin, avec compte-rendu peut-être de ce qui se passe dans certaines villes.
Oui, les rassemblements que vous appeliez de vos voeux sont en cours. 10 000 personnes à Lyon et plusieurs milliers rassemblés en ce moment place de la République à Paris, où vous êtes, Cyril Péter, avec ce mot d'ordre « Je suis Charlie », toujours.
Oui, effectivement, il y a au moins, je dirais, 20 000, peut-être 30 000 personnes ici, place de la République, on manque de place, hein, Il y a peut-être une demi-heure, une heure, ils vendent pas des voitures qui étaient à Place de la République. Maintenant, ce sont entièrement des citoyens qui sont venus à l'appel voilà, de ce mouvement spontané, un mouvement citoyen, des Françaises et des Français de tous âges, de toutes origines, des journalistes qui ont répondu à l'appel du Syndicat national des journalistes. Il y a aussi des travailleurs qui viennent de finir leur journée, des retraités, des étudiants, des chômeurs comme Julien que j'ai rencontré à Vatène, qui parle d'un 11 septembre français. Certains brandissent des drapeaux français, des drapeaux avec l'inscription paix. D'autres tiennent dans leurs mains un stylo, symbole de la liberté d'expression. L'ambiance était très calme. Là, maintenant, les gens applaudissent, crient Charlie, Charlie, Charlie Hebdo. Voilà, apparemment, voilà, c'est vraiment le
mot d'ordre.
La cohue. Et apparemment, un policier vient de m'annoncer que la manifestation va être sans doute redirigée vers l'hôtel de ville, parce que vraiment ici, même les rues adjacentes, je vois, sont vraiment bondées. Les commerçants ont dû fermer par mesure de sécurité et les cafés étaient entièrement bondés.
Merci beaucoup Cyril Péter, cet attentat contre Charlie Hebdo. On y reviendra évidemment largement dans tous les rendez-vous à venir de la rédaction, avec une journée spéciale notamment demain.
Voilà, demain à partir de 6h sur France Culture, nous rendrons hommage notamment à nos confrères de Charlie Hebdo. Je ne vous en donne pas davantage s'agissant du programme précis de cette journée qui est en train, comme vous l'imaginez bien, de se constituer. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis.